Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'Info, votre émission hebdomadaire sur l'actualité des territoires du Nord-Ouest. Et voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. La santé publique des territoires du Nord-Ouest serait présentement en phase de transition vers une levée de l'état d'urgence sanitaire dans les prochains mois. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, le 26 janvier en conférence de presse. Alors que le territoire subit toujours la vague Omicron, les efforts sont aujourd'hui dirigés vers la hausse du taux de vaccination des jeunes de 5 à 11 ans. Le gouvernement a dévoilé ce mercredi trois nouveaux outils promotionnels qui s'adressent spécialement aux jeunes dans le but de les familiariser avec le vaccin et leur en expliquer l'importance. À l'heure actuelle, 57 % des jeunes de 5 à 11 ans ont reçu une première dose.
We're facing a challenge of having to learn to live with COVID-19 and to manage personal and community level of risks with less reliance on public health orders.
L'administrateur en chef de la santé publique par intérim, le Dr André Corriveau, a indiqué que la santé publique fait aujourd'hui face au défi d'apprendre à vivre avec la COVID-19 tout en diminuant notre dépendance aux mesures sanitaires.
This includes achieving the highest possible level of immunization across all eligible age groups and continuing to protect the most vulnerable in our communities.
Ceci implique d'atteindre le plus haut taux possible d'immunisation et de continuer à protéger les plus vulnérables dans les collectivités, a-t-il ajouté. Alors que la courbe d'infection liée au variant Omicron pourrait atteindre son sommet dans les prochains jours, le système de soins de santé du territoire ne serait pas au bout de ses peines, selon la directrice médicale territoriale, la Dr Anne-Marie Pegg.
I would say that we're certainly not over the peak in terms of the impact on the healthcare system.
Nous n'avons pas encore atteint le sommet en matière d'impact sur notre système, a-t-elle affirmé. Les hôpitaux, les centres de soins de santé et les urgences seraient particulièrement affectés. Plusieurs membres du personnel seraient présentement en isolement, surchargés.
We are expecting to bring the public health emergency to an end this spring. Planning is well underway to make that happen.
La ministre Julie Green a par ailleurs affirmé que la levée de l'état d'urgence sanitaire, en place depuis le printemps 2020, était prévue pour ce printemps. Des démarches seraient en cours pour transférer les services offerts depuis 2020 par le secrétariat de coordination pour la COVID-19 vers le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le ministère prendrait ainsi en charge les ressources et le personnel nécessaires à la gestion de futures éclosions de COVID-19. Malgré que le territoire traverse présentement la plus importante éclosion de COVID-19 depuis le début de la pandémie, le Dr Corriveau a insisté sur l'importance du retour en classe lundi dernier pour le bien-être des élèves.
There's accumulated evidence now that there are significant adverse effects to children's mental well-being and their social development when we continue to insist that they attend school through remote means and depriving children of the supports that are available in the school environment.
Plusieurs évidences démontrent que de continuer à imposer l'école à distance et à priver les jeunes de l'appui offert dans l'environnement scolaire a des effets néfastes considérables, a souligné le Dr Corriveau. D'un point de vue de santé publique, ajoute-t-il, les bénéfices liés à l'apprentissage en classe dépassent largement les risques minimes d'infection à la COVID-19. Il rappelle que plusieurs mesures ont été éprouvées depuis le début de la pandémie dans les écoles et ont démontré leur efficacité pour éviter la transmission du virus aux élèves et au personnel. Le Collège nordique francophone lancera dès septembre 2022 un nouveau programme d'éducation en service à l'enfance, en partenariat avec le Collège francophone La Cité à Ottawa. Le programme de 2 ans sera offert en format hybride aux étudiants ténois. Ils pourront assister aux cours en virtuel qui seront présentés en direct, et ce, à partir de chez eux ou en classe, à Yellowknife. La directrice générale du collège, Josée Clermont, en faisait l'annonce le 25 janvier.
Le prof va être en Ontario. Éventuellement, on pourrait avoir un prof qui est physiquement ici, et qui donne le cours aux étudiants qui sont ici, mais aussi ceux qui sont en Ontario. Et puis, le collège va avoir une salle avec l'équipement, puis c'est quelqu'un là pour accompagner les étudiants. Donc, c'est quand même intéressant là, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'équipement à la maison, qui ont besoin d'être entourés d'autres pour être motivés.
Selon ce qu'on peut lire dans un communiqué de presse, au territoire du Nord-Ouest, les diplômés de ce nouveau programme pourront travailler dans des centres d'éducation de la petite enfance et enseigner le préscolaire dans les écoles primaires. Le modèle inclut un système de reconnaissance des acquis pour les personnes avec expérience dans le domaine de la petite enfance ou qui ont déjà suivi des cours.
Quelqu'un qui a une expérience, qui a déjà travaillé dans le domaine, qui a peut-être pris des cours ailleurs, soit ailleurs au Canada ou même dans un autre pays, peut faire reconnaître ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a acquis. Et donc, ne serait pas obligé de faire les 2 ans, tous les cours. Puis, notre objectif, là, c'est d'avoir entre 5 et 10 étudiants.
Un troisième volet s'adresse spécialement aux élèves du secondaire. En complétant un cours du programme, ils obtiendront une double accréditation reconnue à la fois pour l'obtention de leur diplôme secondaire et de leur diplôme collégial. Des discussions seraient en cours avec le collège Aurora pour y étendre cette reconnaissance des crédits, selon ce qu'a indiqué Mme Clermont.
Donc, l'étudiant, ça lui donne plus de cheminement. Il est au secondaire, il ne sait pas s'il va poursuivre en français ou en anglais, mais ça lui donne l'option d'aller vers un ou l'autre plus tard quand il se décide.
D'accord.
Donc, on travaille avec Aurora pour faire reconnaître les cours.
Les paramètres de ce nouveau programme sont tirés directement d'un modèle créé au Collège La Cité à Ottawa, qui est désigné comme étant le plus grand collège de langue française hors Québec au Canada. Après 8 années passées à la barre du Collège nordique francophone, José Clermont a annoncé son départ à la retraite pour l'année 2022. Alors qu'elle s'affaire à ses derniers dossiers, la directrice générale voit grand pour le collège qui se prépare notamment à l'entrée en vigueur de la loi sur l'éducation post-secondaire des territoires du Nord-Ouest. J'ai discuté avec Mme Clermont de son parcours au sein du Collège nordique francophone, mais également de ses grandes attentes envers l'institution qui est appelée à devenir l'établissement d'enseignement post-secondaire francophone du territoire. Mme Clermont, quels sont les dossiers de l'heure pour le Collège nordique? Qu'est-ce que vous allez relayer à vos successeurs? Sur quoi vous travaillez en ce moment?
On travaille sur plusieurs gros dossiers en même temps. Et on a finalisé l'automne dernier notre plan d'affaires 2021-23. Alors, on a déjà commencé à le mettre en œuvre. Alors, il y a beaucoup là, de nouveaux projets qui s'en viennent. Il y a des projets qui sont en cours. On fait énormément pour mettre la réconciliation en action. On a beaucoup de projets avec les Autochtones, avec les aînés, Denis. Comme vous le savez, on a créé des ressources pédagogiques développer avec eux. Et puis, il y a tout ça. On a fait une grosse demande de financement pluriannuel auprès du gouvernement fédéral. Le fédéral avait, dans son budget 2021, a décidé d'investir dans les collèges postsecondaires en milieu minoritaire. Alors, c'est là qu'on a fait une demande. C'est certain que on va certainement avoir quelque chose. Et puis, donc, on continue là, de travailler avec le gouvernement pour ça. Il y a toute la question législative aussi. Comme vous savez, il y a eu la loi sur l'éducation postsecondaire qui est adoptée en août 2019. Elle est supposée entrer en vigueur au mois d'avril, si tout fonctionne comme prévu. Donc, nous, on a travaillé de près avec le gouvernement dans l'élaboration de la loi, pour les différents règlements. Donc, ça va être au CA de décider quelle désignation il veut avoir dans le futur.
Où se situe le Collège nordique francophone là, dans cette loi sur l'éducation post-secondaire? Il va y avoir des décisions qui vont se prendre dans les prochaines semaines?
En fait, premièrement, dans la loi, il y a plusieurs désignations. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des processus en place pour être vraiment bien prêt. Par exemple, on est en train de, j'ai oublié de le mentionner tantôt, là, on est en train de refaire notre site Internet. On va avoir un nouveau système d'inscription, de gestion des inscriptions étudiantes, des politiques par rapport à ça. Donc, beaucoup de travail stratégique à faire en ce moment, pour être prêt quand le gouvernement va enfin, quand la loi va être enfin en vigueur.
D'accord, on se prépare à l'entrée en vigueur de cette loi-là.
C'est ça,
oui. Pour dresser un portrait un peu plus large, Madame Clermont, corrigez-moi là, au besoin, vous êtes arrivée au Collège nordique en 2015 comme directrice générale. Quelle mission vous étiez donnée à ce moment-là? Là? Où est-ce que vous souhaitiez porter le Collège nordique francophone?
C'était une très bonne question parce que moi, j'avais deux rêves. C'était un, de bâtir le seul collège francophone au nord du 60e parallèle qui est basé sur des partenariats solides puis qui reflète notre diversité puis les histoires, l'espoir de notre peuple. Puis mon deuxième rêve, c'était vraiment de bâtir une équipe dynamique. Et quand j'ai commencé, il y avait même pas d'employés au collège. Puis on a une équipe extraordinaire maintenant. Des enseignants qui sont tellement passionnés, une équipe administrative qui se donne à 100% à sa tâche et des nouveaux postes qui se sont créés cette année. Alors là-dessus, là, c'est vraiment une belle réussite. Et puis, on travaille dans un environnement qui est très, très intéressant. Puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'année dernière, on a signé un partenariat avec le Collège Aurora et le Dacinta Center for Research and Learning. Donc, c'est vraiment unique au pays parce que il y a un collège anglophone, francophone et autochtone. Je trouve que il y a eu tellement une belle croissance depuis 2015.
On a assisté à une hausse importante des revenus au cours des dernières années. Le Collège nordique a atteint et même dépassé le million en 2020, je crois. Quelles sont vos attentes en matière de notoriété et d'offres de programmes pour le futur, là, si on pense par exemple aux cinq prochaines années?
Dans les cinq prochaines années, ça serait que le Collège ait sa reconnaissance officielle, mais qu'il y ait un financement de base qui est encore plus grand, qui est stable, qui est prévisible. Parce que en ce moment, le financement que le collège a, c'est souvent par des projets. Si on a eu de financement, mais c'est parce qu'on a des projets de rattacher à ça. Par exemple, on est approché par le GTNO pour offrir des projets en éducation, pour améliorer notre offre de services en éducation à la petite enfance, ou encore avec IRCC pour la formation linguistique des nouveaux arrivants. Mais c'est toujours attaché à des projets. Puis ce qu'on veut là, pour les prochaines cinq années, je vais parler de 3 ans, parce que notre plan d'affaires est pour 3 ans, puis tout change tellement rapidement de nous autres. Mais c'est de réaliser ce plan d'affaires-là, d'avoir plus de formation pour les étudiants ici sur place, puis aussi d'avoir de travailler avec les employeurs pour placer ces étudiants-là aussi, puis aussi connaître leurs besoins et d'avoir plus de financement pour augmenter la capacité, plus de ressources humaines, parce que pour mettre un programme sur place, pour qu'il commence en septembre, il y a beaucoup de travail qui doit être fait en amont. Alors, c'est ça qu'on veut, la reconnaissance officielle, plus de financement, déménager dans un nouvel édifice. Là, on est en train de regarder avec le Collège Aurora de Chinta pour un campus ici à Yellowknife. Donc, il y a tellement de belles choses. Ça m'attriste de devoir partir. J'aurais aimé ça voir ça, mais il est temps de passer aussi le flambeau à d'autres. J'ai confiance là, que la fondation est là, puis tout est en place là, pour un beau futur pour le collège et la communauté.
Deux enseignants de la région de Fort Smith ont lancé un cri du cœur ce jeudi 26 janvier pour que les langues autochtones de leur collectivité aient la place qui leur revient dans le cadre législatif des territoires du Nord-Ouest. Leurs propos ont été recueillis dans le cadre d'une audience publique organisée dans le cadre de la révision de la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest qui a lieu tous les 5 ans.
I'm Cree and in my culture, everything is equal. Nobody is above anybody. We all sit at the table the same.
Je suis Cree et dans ma culture, tout est égal. Personne n'est au-dessus de personne. Nous sommes tous égaux à la table de discussion, a illustré Jessica Balls, enseignante à Fort Smith.
And this document doesn't show that to me. This document shows me that I have English and French and I'm sitting away from the table.
Ce n'est pas ce que je vois dans cette loi. Ce que je vois en ce moment, c'est que je ne suis pas assise à table avec le français et avec l'anglais. 4 intervenants ont répondu à l'appel du comité qui a partagé l'invitation par communiqué de presse et sur les médias sociaux au cours des dernières semaines. Le président du comité, Ryland Johnson, a assuré que les résidents et organisations auront d'autres occasions de se faire entendre au cours des prochains mois. Témoin de première ligne du déclin de la langue Chipewyan, Paul Boucher, enseignant au secondaire, déplore que les langues autochtones officielles des territoires du Nord-Ouest soient à peine visibles dans le quotidien des jeunes de Fort Smith.
When I take students to these different offices, different departments in Fort Smith, the department tell me it's only optional that we advertise the indigenous language. I think that's wrong.
L'affichage dans les langues autochtones est optionnel dans la plupart des bureaux du gouvernement. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, indique M. Boucher. J'aimerais pouvoir y amener mes étudiants pour qu'ils y voient leur langue. Du côté de la prestation de services gouvernementaux, les langues autochtones ne seraient pas plus visibles. Cette situation passe un mauvais message aux jeunes, selon lui, comme quoi les langues officielles autochtones des TNO n'auraient aucune importance aux yeux du gouvernement. Sur la même note, Mme Balls rappelle que, selon la loi, les 11 langues officielles des territoires du Nord-Ouest ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions gouvernementales.
I'm not seeing equality when I have two options to choose from in a language.
Ce n'est pas ce que je comprends lorsqu'on ne m'offre que deux options au téléphone, souligne-t-elle. Elle parle en somme de la loi comme d'un document très occidental qui doit être décolonisé.
You know, it is frustrating as a speaker and a teacher to, you know, try to really push the language and then your students don't see that, or your children, you know, they don't see it being used. So that's disheartening, you know, where they'll even make comments like, well, what am I learning this for? Like nobody's speaking it, you know, or...
Il est frustrant en tant que mère et en tant qu'enseignante de mettre cette langue de l'avant alors que les jeunes ne les voient et ne les entendent nulle part. Les étudiants nous disent aujourd'hui, pourquoi j'apprends cela? Personne ne le parle. Il est essentiel, selon Mme Balls, que les jeunes entendent leurs langues autochtones au téléphone lorsqu'ils veulent obtenir des services gouvernementaux. À titre de citoyen, l'ancien chef de la salle des nouvelles de Média Ténois, Baptiste Foisy, a également donné son point de vue au comité. Pour avoir été journaliste au territoire du Nord-Ouest pendant une quinzaine d'années, M. Foisy affirme avoir largement couvert les enjeux entourant les langues officielles des territoires du Nord-Ouest.
Just to start, I'd like to mention that every day, multiple times a day, the GNWT finds itself in blatant violation of its Languages Act.
Selon M. Foisy, le gouvernement des TNO serait en infraction à la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest, et ce, tous les jours, plusieurs fois par jour.
It's been almost 40 years that we've had this legislation in different form. The institutional contempt of the Languages Act remains, I must say, systemic.
La loi existe sous différentes formes depuis bientôt 40 ans, souligne-t-il, et le mépris institutionnel de la loi demeure systémique. Selon sa propre expérience et plusieurs témoignages qu'on lui aurait partagés, il serait très difficile, voire impossible, d'obtenir, par exemple, des services de soins de santé dans l'une des langues officielles autres que l'anglais.
There is a need for a framework that would more clearly define the obligation of the states towards the official languages speakers.
Monsieur Foisy recommande notamment que les rôles et obligations de l'État envers les locuteurs de toutes les langues officielles soient mieux encadrés par la loi. Sur le plan de la promotion des langues autochtones, Monsieur Foisy suggère notamment de se tourner vers les provinces et les autres territoires afin de s'inspirer des meilleures pratiques. Il donne entre autres l'exemple du Nunavut qui, en 2008, a créé la loi sur la protection de la langue inuit. La directrice générale de la Fédération franco-ténoise, Linda Bossé, a pour sa part présenté un aperçu au comité des recommandations qui lui seront fournies dans un mémoire qui sera déposé au cours des prochaines semaines. La directrice a assuré que les membres de la communauté franco-ténoise auront d'abord l'occasion de consulter ce mémoire et d'émettre leurs commentaires. Selon ce qu'a indiqué Mme Bossé lors de sa comparution, la FFT recommande qu'une nouvelle loi sur les langues officielles au TNO impose des obligations à l'État, rendent les institutions publiques imputables et développent une politique forte sur la protection des communautés linguistiques.
I think there's more training to be done, and as I said, I think we have to go beyond the hello bonjour, and we need to be able to offer more services.
Nous devons aller au-delà du bonjour hi, a résumé Madame Bossy. Elle évoque la difficulté d'obtenir des services gouvernementaux, que ce soit en français ou dans toutes les langues officielles autres que l'anglais. À l'heure actuelle, toute personne témoin ou victime d'une faille à la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest est invitée à formuler une plainte à la commissaire aux langues. La FFT recommande que la loi sur les langues officielles des TNO accorde davantage de pouvoir à la commissaire aux langues. Révisée tous les 5 ans, la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest n'a subi aucune modification depuis 2003. Catherine Lapointe, une musher de Fort Smith, prendra la direction du Yukon en février pour participer au Yukon Quest, une course de traîneau à chien de 160 km entre Whitehorse et Brayburn. Mon collègue Thomas Chabot s'est entretenu avec la musher pour en savoir davantage sur la pratique et sur la préparation nécessaire à la course.
Cette course-là, c'est une qui est extrêmement rare. En fait, elle n'existe même pas en temps normal dans la Yukon Quest, dans tout le système de cette course-là. Oh. À cause de la pandémie, il a fallu qu'ils revisitent le circuit entier de la Yukon Quest, qui est normalement une course de 1000 miles, ou de 300 miles, donc qui passe du Yukon, Canada, à Alaska. Donc, à cause de la pandémie, ce trajet-là, il n'est pas facile. Donc, ils ont divisé la course entière en différentes distances, dans le fond. 100 000, 200 000, 300 000, 550.
C'est donc une segmentation du parcours d'origine.
Exactement. Donc, mis ensemble, comme tout le monde ensemble, on participe pour faire vivre cette course-là qui est internationale et qui est vraiment le fun.
Comment est-ce qu'on se prépare pour un exploit de la sorte? C'est pas anodin quand même.
Non, c'est pas anodin du tout. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Faut vraiment que je mette tout mon temps, tout mon argent, toute ma patience, toute ma fatigue dans la préparation. Moi, j'ai commencé en octobre sur un 4 roues. Mm-hmm. Donc, dans le fond, je faisais des petites distances que j'ai agrandies au fur et à mesure. Donc, j'ai été de 2000 à 15 000 en 2 mois. En un mois et demi, genre. Puis, après ça, de 15 000, quand on avait assez de neige pour sortir les traîneaux, jusqu'à 45 000 aujourd'hui. Puis là, on pense à en faire plus, là, plus loin en entraînement.
Et si je ne me trompe pas, ça fait 9 ans que vous êtes musher, 8 ou 9 ans, n'est-ce pas?
Oui.
Et là, par rapport à ça, j'ai pu voir sur Internet donc, certaines informations et je pense que j'ai une anecdote qui va plaire à certains de nos auditeurs. On pourrait penser qu'une résidente de Fort Smith a eu la piqûre de ce sport au territoire du Nord-Ouest, mais non, il semblerait que c'est au Cégep au Québec que vous avez développé cette passion. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce coup de foudre qui semble un peu loin des territoires du Nord-Ouest?
Oh mon Dieu, oui, c'est certain. Le Cégep, pour moi, c'était à Gaspé, en technique de tourisme d'aventure. Et dans le cadre de ce programme-là, on avait une fin de semaine, 4 jours environ, comme introduction au traîneau à chien. Donc, on apprend à guider dans vraiment tous les sports inimaginables, dont le traîneau à chien. Donc, quand on est arrivé au petit chenil de, 14 chiens, qui est quand même très petit, quand on est arrivé avec la vanne, on est débarqué de la voiture, on voyait même pas les chiens encore, là, qui ils jappaient, ils hurlaient, là, ils faisaient des wouhous, comme j'appelle ça. Puis, moi, les gens m'ont monté aux yeux, puis, j'étais mordue. J'ai même encore touché à un traîneau, là.
je voulais parler justement de cet unisson parmi les chiens. Comment est-ce que vous arrivez à créer ça?
Je pense que faut vraiment avoir un esprit de famille puis un esprit genre très social. Comprendre la dynamique entre les chiens, comprendre que chacun des chiens est un individu à part entière, avec ses émotions, ses faiblesses, ses qualités, tout ça. Les comprendre, les nourrir, les aimer, en prendre soin, genre through and through, il faut vraiment prendre soin. Puis si on fait tout ça, on leur donne la paille. Oh my God, la paille, ça c'est une journée assez plaisante pour eux.
Et pour certains de nos auditeurs, moi y compris, entre vouloir se lancer dans les courses de traîneau à chien et le faire, et il y a un monde qui les sépare, comment quelqu'un peut débuter? Est-ce que c'est facile d'accès comme pratique?
C'est facile d'accès si quand tu vas chercher tes premiers chiens, que ce soit 2, 3 ou 4, ou 11. faut que tu te mettes dans la tête que tu es dans le sport pour au moins 15 ans. Faut planifier à long terme parce que c'est l'espérance de vie d'un chien. qui est en forme, qui court. Donc, surtout les Alaskan Huskies, ils vont vivre vraiment longtemps si tu en prends très bien soin, si ils ont une alimentation vraiment bonne. Puis ça ne veut pas dire de la nourriture qu'on trouve partout. Il faut vraiment regarder, faire des recherches, puis travailler en mesure de l'afforder.
Et justement, est-ce qu'il y a certains mythes entourant votre pratique que vous voudriez peut-être démystifier, mettre au clair?
Oui, il faut comprendre que les chiens de traîneau, ce n'est pas nécessairement des chiens de compagnie. Ils peuvent l'être vraiment très bien. Toutes les chiens de traîneau que j'ai en ce moment, que j'ai rencontrés, ils seraient parfaits à l'intérieur d'une maison, comme chiens de compagnie. Mais il faut aussi comprendre qu'ils ont des besoins. Ils sont là à cause qu'ils ont un besoin d'aventure. Ils veulent explorer. Ils ont besoin de se dépenser mentalement et physiquement.
Et justement, c'était simplement pour revenir à un mythe qui est quand même courant. Ces chiens-là n'ont pas froid, ils ne sont pas fatigués de l'exercice physique, ce n'est pas de la maltraitance.
Ce n'est pas de la maltraitance, d'abord que tu es nourri comme il faut. La pire chose que tu peux faire à un husky ou à un chien avec un double manteau, donc avec un manteau qui protège des intempéries, puis un manteau qui va garder au chaud, donc on parle du poil. Là. Mm-hmm. Ce chien-là a besoin d'être dehors quand il fait froid pour que leur métabolisme il commence à intégrer genre il faut s'isoler, il faut qu'on dépense d'énergie pour que le poil soit de bonne qualité pour se protéger du froid.
Ils sont faits pour un environnement nordique.
Exactement. Puis si tu donnes la bouffe avec les bons nutriments, donc avec la protéine, du gras en masse, puis moins de peu importe qu'est-ce qui de farine, les choses qui font rien. Là. Mm-hmm. Tu vas voir un changement direct dans leur manteau.
C'était Catherine Lapointe, une musher de Fort Smith, qui, avec sa meute, prendra part en février à la course Yukon Quest. Racine Nachalik, l'ancienne présentatrice phare du journal télévisé en Inuktitut de CBC, va recevoir le mois prochain le prix Gordon Sinclair du journalisme de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Pour nous en parler, Lambert Barrault-Guinet est avec nous en studio, journaliste à Média Ténois. Bonjour, Lambert.
Bonjour, Thomas.
Lambert, on récompense finalement le Madame Nachalik pour l'ensemble de son œuvre, de sa carrière journalistique. Et c'est une carrière au parcours atypique. Là. C'est quand même un parcours impressionnant.
Effectivement, Thomas, son parcours est particulièrement inspirant. Elle est née et a grandi sur l'île de Baffin, dans ce qui deviendra plus tard le Nunavut. Et c'est important pour la suite de sa carrière. Elle est ensuite envoyée dans des écoles résidentielles, d'abord au Nunavut, puis au Manitoba. Et elle travaille ensuite comme traductrice pour le Bureau des langues du gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Un peu par hasard, elle tombe sur une annonce de CBC en 1994 qui cherche à l'époque quelqu'un pour présenter le journal télévisé en Inuktitut qui s'appelle Igalak. Elle postule, est retenue et présente ce journal télévisé pendant près de 20 ans avant de se retirer du milieu médiatique. Et c'est pour récompenser cette longue carrière qu'elle recevra mi-février le prix du journalisme parlé de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision.
Et Lambert, Mme Nachalik, elle a été témoin de plusieurs moments marquants du Nord canadien au cours de sa carrière.
Effectivement, comme je le soulignais en introduction, lorsque Mme Nachalik a commencé sa carrière, le territoire du Nunavut n'était pas encore reconnu en tant que tel par le gouvernement du Canada. Si les premières frontières sont déjà dessinées et les premières tractations bien avancées au moment de l'arrivée de Racine Nachalik à CBC, c'est qu'en 1999 que la création du Nunavut est officialisée. C'est donc pendant 6 années... de ce processus politique fondamental pour la reconnaissance des droits inuits que la journaliste a pu suivre et transmettre en Inuktitut. Elle s'est notamment illustrée grâce à ses compétences en traduction instantanée qu'elle avait acquises dans sa première carrière, qui lui ont permis de lire en anglais les nouvelles les plus importantes tout en les énonçant à l'oral en Inuktitut.
Lambert, vous avez mentionné qu'elle s'est retirée de la vie médiatique après 2 décennies, là, une 20aine d'années en tant que journaliste. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui?
Exactement. Après 19 ans passés à présenter ce journal d'information, Mme Nachalik a effectivement pris sa retraite au printemps 2014 et depuis, elle occupe de nombreux rôles de conseil et d'accompagnement, notamment auprès de la Fondation pour le mieux-être des autochtones de l'Arctique. Elle est aussi aînée et gardienne du savoir en résidence à l'Université d'Alberta, où elle sert de lien entre les étudiants du Nord et les cultures et les traditions inuites. Lien qui semble particulièrement important pour elle, qui milite pour le développement d'un journalisme nordique, inuit et autochtone. Elle a notamment évoqué, dans une courte entrevue ce jeudi matin, que l'information était capitale dans les collectivités pour pouvoir se développer et construire un mode de vie sain, et qu'il ne manquait que la relève dans l'univers journalistique en langue inuite qu'elle appelle donc de ses voeux.
Lambert Barrault-Guinet, merci beaucoup.
Merci Thomas.
C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission, Territoire d'info. Je suis Thomas Étier, journaliste de l'initiative du journalisme local pour Média Ténois. Passez une excellente fin de journée.